Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de 2 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
J'ai choisi de rester à la maison 3 ans avec mes jumeaux. J'ai beaucoup galéré et j'ai beaucoup appris. Très facile à dire après coup, hein, mais les périodes où pendant lesquelles on est les plus sous pression sont quand même les périodes qui nous font le plus grandir. Et voilà, et cette parenthèse au foyer, ça a été la chance de ma vie de me retrouver seule face à moi-même, de plus être celle qui brille en famille, en société, au boulot, de plus être justement le petit soleil et de faire face à ce que j'avais vraiment à l'intérieur de moi.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hélène. Elle a une énergie incroyable et un parcours plus qu'inspirant. Alors qu'elle finit ses études de philosophie, elle décide de changer de voie et de devenir professeure des écoles. Après 4 ans d'enseignement, dans la souffrance, un congé parental de 3 ans avec ses jumeaux et un burn-out, Hélène décide de transformer son blog Les Fabuleuses au foyer en une entreprise. Aujourd'hui, Hélène anime avec son équipe une communauté de 150 000 fabuleuses et est la maman de 4 enfants et un au ciel, pour reprendre ses mots. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Hélène Bonhomme.
Bonjour Hélène.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors, il s'agit d'un flamant rose. Je me suis fait offrir, en fait, pour mon anniversaire, cet objet en papier mâché par mon mari et mes enfants. Donc, voilà, ce sont des... J'imagine qu'il a trouvé ça en magasin do it yourself ou je sais pas quoi. Donc je me suis fait offrir le flamant rose en papier mâché plus de la peinture qui allait avec, des paillettes, de la colle, des trucs à coller. Et j'ai choisi cet objet premièrement parce que mes enfants me l'ont offert pour que je le mette dans mon bureau, pour que je pense à eux. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Ma vie de famille n'est pas toujours aussi mignonne, tu vois, donc je me suis dit ça, il faut que ce flamant rose sera toujours sous mes yeux. J'ai trouvé ça très intelligent de mon mari comme cadeau, enfin de la part de mon mari comme cadeau, parce que je me suis dit que c'était à la fois un objet et à la fois un moment de qualité, tu vois, qu'il m'a offert à passer en famille. Et puis aussi parce que je lui ai demandé, mais pourquoi un flamant rose? Enfin, je sais pas, t'aurais pu m'offrir n'importe quoi. Et en fait, voilà, il me connaît bien et tu sais, c'est ce fameux jeu quand on se pose la question, si tu étais un animal. Et je pense que j'aurais pu choisir flamant rose. En tout cas, je pense comprendre pourquoi mon mari a choisi ça. Je sais pas si ça a une signification sexy ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu vois, il me dit oui, c'est parce que t'aimes pas être comme les autres. Tu veux toujours être différente. Tu veux toujours avoir la petite touche de couleur. Voilà, ça m'a fait penser aussi. Je sais pas si t'es familière avec cet outil de connaissance de soi qui s'appelle l'énéagramme. Voilà, c'est un outil que j'ai découvert il y a quelques années et moi je me reconnais énormément dans le profil 4 qui à la fois a très envie d'être compris mais qui en même temps a très envie d'être différent, de surtout pas être comme les autres. Voilà, ce qui je pense est à la fois une très grande qualité et un très gros défaut. Mais je me reconnais beaucoup là-dedans, donc c'est pour ça que je t'ai envoyé la photo de mon flamant rose.
Génial. On la mettra sur le blog pourquoipasmoi.co et je la mettrai aussi sur Instagram pour que les personnes puissent découvrir ce beau flamant rose. Et quel type de petite fille tu étais?
Alors, on m'a dit, ma maman m'a beaucoup répété que j'étais solaire et que d'ailleurs mes parents avaient choisi le prénom Hélène qui vient de Hélios en grec, le soleil. Donc Hélène et Éclat du Soleil.
C'est beau, hein ? Ouais, c'est chouette.
Ouais, c'est vachement plus beau que Hélène et les garçons de J'ai grandi avec ça dans les années 90. Ça a enlevé un peu de classe à mon prénom, tu vois. Mais et voilà, on m'a répété que j'étais une petite fille lumineuse, de bonne humeur, voilà, qui emmenait beaucoup de joie. Je pense qu'il y avait beaucoup de moi là-dedans et beaucoup de façades aussi, parce que j'ai appris très tôt à être celle qu'on attendait de moi et à justement être être celle qui va bien, être celle qui emmène de la joie quand il y en a pas. Et je pense que ça a été un poids sur mes épaules longtemps. Et c'est finalement assez récent que j'ai pu découvrir que j'avais quand même porté un masque de perfection pendant très, très, très longtemps.
Et ça, tu sais à quoi c'est lié ?
Oui, alors bon, je vais faire très certainement de la psychologie de comptoir, mais je pense pouvoir répéter quelque chose qui m'a été confié par ma maman. C'est que voilà, elle-même était pas mal sous pression, notamment dans sa maternité, et de par sa propre mère et sa propre belle-mère. Et notamment, voilà, moi je suis la deuxième de notre fratrie, et les deux grossesses, autant pour mon grand frère que pour moi, se sont pas très bien déroulées. Ma maman était alitée, et puis on lui a dit voilà des phrases qui lui ont fait mal, et notamment cette phrase bon ben après ce bébé t'arrêtes parce que t'es vraiment pas faite pour ça. Et il se trouve qu'en après ça, mes parents ont fait 3 bébés de plus, donc on est 5 enfants, ça ne l'a pas arrêté. Mais voilà, elle m'a confié plus tard qu'elle m'a clairement utilisée en fait pour prendre sa revanche et prouver qu'elle était capable d'être une bonne maman d'une super petite fille. Voilà, je pense que c'est une explication assez assez juste, au moins d'un point de départ de cette volonté moi de plaire à ma maman pour que ma maman puisse plaire à sa propre maman. Et voilà, je pense que ça dit déjà beaucoup beaucoup de choses sur le travail que j'ai choisi de faire aujourd'hui et sur ces failles qui se transmettent malgré nous, hein, de génération en génération.
Et ça, on en parle peu, ouais, des failles, enfin des blessures transgénérationnelles. C'est un truc, moi je l'ai découvert il y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est incroyable quand tu te rends compte des blessures, de ce que tu hérites, et c'est souvent ça saute une génération. Ouais. Et de s'en libérer, c'est un magnifique cadeau à s'offrir. Moi, je sais que j'avais fait des protocoles de Natacha Kellestrémé, je sais pas si ça te parle, et je suis allée voir aussi une magnétiseuse qui m'a vraiment libérée de plein de choses, et tu te dis, mais c'est fou, quoi, de te dire que t'as hérité des peurs de ton grand-père ou de ta grand-mère, alors que, enfin, ça ne t'appartient pas.
C'est vrai.
Et quand tu t'en libères, après, tu te dis, waouh, mais je me sens tellement plus légère.
Ouais, c'est vrai. Et à la fois, ça ne t'appartient pas, mais à la fois, tu es responsable d'en faire quelque chose.
Exactement.
Et de bloquer le flot pour qu'il ne passe pas à la génération suivante.
C'est exactement ça.
Et c'est là où j'adore mon travail, puisque je m'occupe de la santé émotionnelle des mamans, et que je me rends compte que pourquoi est-ce que finalement on pète un câble à l'arrivée de notre premier, voire de notre deuxième enfant, parce qu'avec le premier encore, on peut encore plus ou moins faire semblant. Pourquoi est-ce qu'on arrive à... Enfin, est-ce que je suis arrivée, en tout cas, à péter les plombs, c'est parce que justement, on se retrouve dans le rôle du parent, et forcément, une partie de notre enfance se rejoue.
Clairement.
Et il y a une dame qui s'appelle Shefali Tsabari, qui a écrit un bouquin que j'ai lu en anglais, The Conscious Parent, mais je crois que ça a été traduit en français, le titre est moins parlant. Parents, enfants, grandir ensemble, il me semble. Courrier du livre, je crois, au niveau de l'édition. Et en fait, elle dit, pourquoi faisons-nous des enfants ? finalement? Quelle est la vraie raison? Enfin, qu'est-ce qui nous a pris, quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est pour peupler la planète, sachant que c'est pas forcément d'actualité? Est-ce qu'on fait ça pour pouponner, pour le fantasme d'avoir une table bien pleine à Noël quand on sera vieux? Et en fait, elle dit, sur le plan spirituel, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? C'est pour évoluer en tant que parents. C'est pour devenir conscient de nous-mêmes. Et les enfants nous font ce cadeau. Et donc, elle va dire, nos enfants nous font-ils grandir? Et quelque part, on croit que c'est à nous de les élever, mais sur le plan spirituel, c'est eux qui nous élèvent. Et moi, je suis hyper reconnaissante à ma maman d'avoir fait le travail qu'elle avait à faire de son côté. Pour qu'on puisse avoir ce genre de discussion qui me libère moi. Et je mets tout en œuvre, je suis très très loin d'être parfaite, mais j'essaye de mettre tout en œuvre pour faire ce cadeau aussi à mes enfants. Mes parents ont souvent utilisé cette phrase, que notre plafond soit votre plancher. Ils nous ont dit ça à mes frères, ma sœur et moi. Et voilà, j'espère que je pourrais transmettre à mes enfants un petit peu moins de casseroles que celles que j'ai reçues, de la même manière que c'est ce que mes parents ont fait pour moi.
Mmh, c'est chouette. Et où est-ce que tu as grandi ?
En Alsace. Voilà, je suis une pure Alsacienne. Du côté de ma maman, du côté de mon papa, j'ai grandi dans un petit village que je peux citer ici, sait-on jamais, ouais, qui s'appelle Vogelsheim. Ouais.
Alors voilà, tu ne me demanderas pas de l'orthographier parce que...
Non. C'est beaucoup trop compliqué. C'est pas très loin de Neuf-Brisach, voilà, qui est une ville qui a été fortifiée par Vauban. Et j'ai grandi dans le même village que mes grands-parents, qui parlaient alsacien. C'est vraiment le folklore total, tarte flambée, choucroute, enfin tout. Et puis je suis allée faire mes études à Strasbourg, qui était la grande ville, voilà.
Justement, du coup, ça s'est passé comment avant de parler de tes études, c'était quoi ton rêve de petite fille quand tu disais, oh, je serai grande, ça sera, qu'est-ce que je ferai?
Alors moi, je rêvais de deux choses. Je rêvais d'être maîtresse, voilà, et je rêvais d'écrire des livres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près ce que je fais. Je pense enseigner d'une certaine manière, et puis j'écris. Donc.
Et puis enseigner. Alors, t'enseignes pas. T'enseignes indirectement aux enfants parce que tu passes par les mamans, mais.
Ouais. J'espère. On a quelques retours quand même, même de plus en plus, de fabuleuses mamans qui disent « Je suis ravie parce que ma fille de 12, 13, 14 ans, indirectement, alors soit regarde les vidéos directement, mais ou indirectement, a changé de discours sur son estime d'elle-même, parce que moi, sa maman, j'ai aussi changé mon discours et j'ai appris à m'aimer moi. Donc, je l'espère en tout cas, qu'on fait de l'influence multigénérationnelle.
Bah oui, forcément, parce que... On dit hein, quand les mamans est bien, la maman est bien, les enfants sont bien.
Ouais.
Et donc du coup, ça s'est passé comment pour toi au moment du choix des études?
Alors j'ai fait un bac littéraire. Ça, la question ne se posait même pas. J'aurais pas du tout assuré dans les autres filières. Et voilà, j'ai toujours adoré les langues, la littérature. J'ai eu un coup de foudre pour la philo en terminale. Vraiment un coup de foudre. J'étais comme un poisson dans l'eau. Mon prof de philo m'a poussé à aller en prépa littéraire. Donc j'ai débarqué en Cagne au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, qui est au pied de la cathédrale. Voilà, ouais, pour moi c'était vraiment le vrai monde, quoi. Je sortais de mon petit village, voilà.
Du coup, t'as emménagé à Strasbourg?
Oui. Alors à l'époque j'étais en internat.
Ok.
J'étais en internat, c'était une ambiance que j'ai adorée. On était entre cagneux, enfin voilà. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette période-là, même si j'étais au bout de ma vie puisqu'on faisait nos dissertes de philo jusqu'à 3h du matin. Enfin voilà. Mais c'était une belle saison de ma vie. Et donc en hypocagne et ensuite en cagne, je me suis spécialisée en philo et puis je suis partie après en fac de philo. J'ai fait une licence de philo et il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie qui font que j'ai pas eu confiance en moi pour passer ce qui aurait été la voie royale pour moi, un CAPES de philo, voire une agrégation. Je le regrette pas aujourd'hui parce que je suis pas sûre que j'aimerais être dans l'éducation nationale. Je l'ai été par une autre voie, mais voilà. En tout cas, j'ai paniqué. Je me suis dit, j'arriverai jamais à avoir le concours. Voilà. J'ai pensé à passer le concours d'école de journalisme et j'ai eu peur aussi. Je l'ai pas passé. Et
t'as eu peur de quoi?
Je sais même pas si j'ai eu peur de pas réussir. J'ai eu peur de faire le mauvais choix. J'ai eu peur de finir à la rubrique des chiens écrasés. J'ai eu peur de ce que mon entourage allait dire de mes choix. Je pense que c'est surtout ça. C'est surtout ça.
Parce que justement, tes parents, ils faisaient quoi comme travail ?
Alors, mon papa était artisan menuisier. C'est un homme extrêmement créatif, pas du tout entrepreneur dans l'âme. Il a toujours voulu garder sa petite boîte pour pouvoir tout faire. Donc, il a jamais créé deux fois le même meuble. Il rencontre les gens, il essaye de comprendre qui ils sont et il leur dessine une cuisine, une salle de bain, un dressing, n'importe quoi qui leur ressemble. Donc, voilà, j'ai grandi dans l'odeur de la sciure, le bruit des machines... Et puis j'ai passé beaucoup de temps dans l'atelier de mon papa. Ça a été aussi beaucoup mes jobs d'été, poncer, vernir, couper, voilà. Et ma maman était conjoint collaborateur, le job le plus sexy du monde.
Qui a le plus de reconnaissance.
Oh là là. Elle a fait la compta de mon père pendant 30 ans. Et elle est revenue quand mes frères, ma sœur et moi avons quitté le nid, elle est revenue à son premier amour puisqu'elle est infirmière de formation. Et puis, alors elle est à la retraite depuis quelques jours, mais les 10 dernières années, elle a été, elle s'est occupée de personnes âgées à domicile. Voilà, donc des soins à domicile et ça lui va super bien. Voilà, depuis qu'elle est retraitée, ses petits papis, mamies. Sont très tristes parce qu'elle leur manque beaucoup et qu'elle est... Voilà, donc c'est vraiment une dame du soin, ma maman.
Du coup, la philosophie dans tout ça, c'est loin de cet univers, de leur univers à tous les deux.
Ouais, c'est loin de leur univers, mais c'est des gens très curieux. Et on avait des belles discussions à table. Je balançais mon sujet de la prochaine disserte et puis on en discutait. Voilà, ils ont... Je me suis pas forcément toujours sentie comprise, mais je me suis toujours sentie encouragée.
Ça c'est chouette, ouais.
Ouais, ouais.
Et donc du coup, tu disais donc que t'avais peur pour l'école de journalisme, que t'as pas la grègue ni la titularisation. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait ?
Et en fait, je me suis fait cette réflexion qui était peut-être pas si idiote que ça à l'époque. Je me suis dit. En fait, tu veux écrire des livres, tu veux avoir des trucs à raconter, mais aujourd'hui, t'as rien à raconter. Il faut que tu te confrontes au vrai monde et à la vraie vie. Et pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas ton premier job de rêve, c'est-à-dire professeur des écoles ? Donc, en fait, je suis passée de fac de philo à l'époque ce qui s'appelait l'IUFM, que les gens aujourd'hui ne connaissent peut-être plus, mais voilà, l'Institut de formation des maîtres. Et donc, j'ai passé le concours. Je l'ai eu du premier coup à ma grande surprise et je me suis retrouvée prof pour des enfants. J'étais remplaçante pendant 4 ans de la toute petite section de maternelle au CM2 et en plus de ça, j'ai été en SECPA, donc en collège, et en ITEP. Ceux qui savent que c'est des établissements... extrêmement difficile avec voilà des enfants et des ados concrètement qu'on sait pas où mettre ailleurs et qui sont en grande souffrance. Et en fait, encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à m'expliquer comment j'ai pu choisir d'aller dans cette branche. Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi ?
Dans la branche de quoi ? D'aller justement vers ces enfants en difficulté ?
Alors ça, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que, d'accord. En fait, j'étais jeune prof, jeune recrue de l'éducation nationale. Donc, moins t'as de points, plus t'as de chances d'aller là où personne n'a envie d'aller.
Ce qui est fou, c'est parce que tu dis justement l'expérience pourrait servir à ces enfants, quoi.
Exactement, c'est là où on aurait besoin des meilleurs. Et moi, j'étais une petite fille... complètement noyée dans mes émotions. Je me retrouvais, tu vois, face à des... face à des troisièmes qui avaient redoublé trois fois. Donc, ils avaient 16, 17 ans. Ils avaient une tête de plus que moi. Ils me traitaient de pute. J'avais aucune ressource. Je n'avais rien. J'étais naïve. Je savais pas gérer mes émotions. Voilà. Et donc, j'ai détesté ces années-là. Voilà, je les ai détestées. Puis remplaçante, c'est encore plus dur parce que t'es la femme à abattre, quoi. Enfin, je veux dire, s'il y a une personne qu'on respecte pas, c'est la remplaçante qui va rester une semaine ou un mois. Et puis.
Ouais,
et
puis t'as pas le temps de lier de construire des choses. C'est vrai. Ouais.
Dès que t'as pu, construire une relation et mettre en place une petite forme d'autorité, tu t'en vas, quoi. Donc non, j'ai pas aimé ces années, mais. Si mon objectif était d'apprendre un petit peu la vie, je pense que j'ai appris beaucoup de choses et que je me suis un petit peu endurcie quand même.
Et donc, qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as pris la décision d'arrêter ?
Alors, qu'est-ce qui a fait ? C'est qui est-ce qui a fait ? C'est mon mari, David, que j'ai rencontré à cette période-là quand j'étais prof. Et je vais te dire un truc complètement kitsch, bisounours au possible, mais David, c'est vraiment mon agent, quoi. Alors, je te confesse que j'aime Céline Dion. Et,
David est mon René. Tu peux y aller.
Alors, je vais m'en donner à cœur.
Tu peux y aller complètement, vas-y. Voilà.
Je n'osais pas le dire. Mais,
non, mais vas-y.
Cet homme est mon René, tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, il croit en moi. Depuis toujours, c'est lui qui m'a dit « Non mais attends, t'es capable de faire des dissertes de 14 pages sur un seul mot. » Et alors pour lui, tout ce qui est scolaire, ça n'a aucun sens. Alors que moi, j'ai toujours été la très très bonne élève. Il me dit mais ça pourrait servir à faire plein de choses. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas beaucoup de gens qui savent écrire. » Voilà, et donc on était jeunes, on était fous, on a lancé un site internet qui n'existe plus, sur lequel on publiait des critiques d'albums de musique. On a lancé un petit magazine qui était distribué à 40 exemplaires, qu'on imprimait nous-mêmes sur nos vieilles imprimantes HP. Voilà, et en fait, il m'a fait écrire autre chose que des dissertes de philo. Ouais, il m'a lancé, quoi. Il m'a vraiment lancé.
Et à ce moment-là, du coup, t'étais encore prof?
J'étais encore prof. Et on s'est mis ensemble. On s'est mariés au bout de 6 mois.
Waouh!
Ouais. Genre, tu vois, alors notre vie de couple n'a pas été toujours rose, mais ce qui a toujours été certain, c'est que on avait fait un choix et qu'on reviendrait pas dessus, quoi.
Vous aviez quel âge ?
On s'est mariés moi j'avais 24 ans et David 23. C'est hyper jeune quand j'y pense, je me dis, mais franchement, j'aurais tellement pu me tromper, en fait.
Tu dis en plus t'es mariée aussi vite à cet âge-là, c'est.
Mais oui. Ah non, et voilà, mais après
c'était
coup,
une évidence.
C'était une évidence. C'était une évidence. On a traversé 8 années de grosses, grosses galères de couple. Et je suis très, très fière qu'on les ait surpassées, qu'on ait tous les deux grandi. Voilà, on a grandi. Et qu'on... Voilà, aujourd'hui... Aujourd'hui, on vit. On est très très loin d'être le couple parfait, hein. Mais aujourd'hui, on touche du doigt que le couple peut être une bulle protectrice qui recharge les batteries, et on commence à vivre voilà cette romance qui n'existait pas au début parce qu'en fait, on s'est beaucoup notre amour à la base était très fondé sur le travail et les projets. Ce qui est beau en soi, il y a des gens qui rêveraient hein, d'être capables de bosser ensemble. Et nous, c'est un truc, on est bon, tu vois, on est bon à ça. Bosser ensemble, être complémentaires, se challenger, avoir des grands rêves, prendre des risques, parce que quand j'y pense, on a pris des risques incroyables pour en être là où on en est aujourd'hui. Par contre, voilà, on était tellement jeunes et on s'est lancé tellement vite qu'on n'a pas pris le temps de nourrir d'autres plans de notre relation. L'amitié, la romance, l'intimité, voilà. Donc, ça a pris du temps. Mais je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, on est sur beaucoup de plans, une équipe qui gagne.
C'est génial. De toute façon, après, qu'est-ce que le couple parfait, hein? Tu peux avoir aussi... Ouais. Enfin, tu vois, moi, je sais qu'avec mon ex-mari... Quand on s'est séparés, tout le monde a dit mais c'est pas possible, pas vous en fait. Ouais, et si tu creuses en fait, tu te dis bah ouais, mais en fait il y avait plein de choses qui allaient pas et clairement ce qui se passe chez les uns et puis même toi en tant que acteur du couple, parfois tu te rends pas compte qu'il y a des choses qui vont pas du tout et qu'une fois que tu prends du recul et de la hauteur, tu te dis non mais ça plus jamais et du coup c'est ça, c'est en effet c'est clairement un défi immense de se dire que tu t'aimes toute ta vie, surtout quand tu te rencontres jeune, parce que moi je sais que je l'avais rencontré, j'avais 21 ans, on s'est séparés, j'en avais 39, tu te dis bah je suis plus tout à fait
plus la même personne. C'est clair.
T'es plus la même personne, t'as plus les mêmes aspirations. Après, c'est un enjeu d'arriver à évoluer ensemble et faire en sorte d'avoir toujours envie des mêmes choses, quoi.
Ouais, carrément. Et puis quelque part, cette loterie de finalement, je ne suis plus la même personne, l'autre n'est plus non plus la même personne. Et est-ce que on peut retomber amoureux finalement, puisqu'on est deux personnes différentes.
C'est ça.
Il y a
la
pas de
comme c'est tu vraiment dis, la clé pas... hein, c'est communiquer parce que évidemment qu'il y a des, tu vois, je me rappelle une séance chez ma psy où je sentais que ça partait en cacahuète et elle me disait vous savez Charlotte, vous étiez tous les deux sur un vélo sur le même vélo en tandem, là vous êtes chacun sur votre propre vélo l'idée c'est d'arriver. Forcément, il y a des moments où vous allez partir chacun sur un chemin différent parce que, quand je parle de chemin différent, on parle évidemment de chemin de vie, mais pas avec d'autres personnes. on soit bien d'accord. Et elle dit, vous êtes chacun sur votre vélo. Et puis, l'idée, c'est de vous retrouver, d'avoir le même projet commun et de vous retrouver sur le sentier. Et moi j'avais trouvé ça vachement dur. Je me disais mais moi j'ai envie de rester sur le tandem avec lui. Et en gros il y a des moments la conclusion c'est qu'en effet on était chacun sur notre vélo et que le chemin il sera en parallèle parce qu'il y a les enfants mais en tout cas ça sera plus jamais sur le même vélo quoi.
Pas sur le même vélo ouais. Et c'est dur parce que un couple c'est deux personnes, c'est deux volontés. Donc à partir du moment où les deux volontés sont pas alignées. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Et c'est un sujet qui revient en long, en large et en travers chez les fabuleux, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les mamans à bout de nerfs débarquent chez nous, c'est pourquoi est-ce qu'elles ont le courage de dire là j'ai vraiment besoin d'aide? C'est parce que en fait leurs relations avec les personnes qu'elles aiment le plus au monde sont fragilisées. Et ces personnes c'est qui? C'est leurs enfants ou leurs conjoints ou alors leurs conjoints ou leurs enfants dans l'ordre de priorité. Voilà. C'est extrêmement facile à dire parce que quand on est en souffrance dans son couple, ça va rejaillir malheureusement sur tous les autres domaines de notre
évidence.
Vie.
Je veux te dire, tu le vois sur tes enfants, c'est hyper. Ma fille donc a 8 ans, elle vient d'avoir un zona. Ouais. Alors, donc le zona, c'est quand même la conséquence d'un choc émotionnel. J'y suis pour rien dans le sens où c'est pas moi qui ai décidé que c'est la fin de notre couple. Mais bon, tu te dis, tu es forcément pour quelque chose parce que c'était un couple, donc c'est deux personnes. Mais ouais, tu te dis, waouh, tu vois tes petits bouts de choux souffrir et souffrir de façon inconsciente parce qu'au final, tu te dis, ça a forcément un impact. Tu leur changes leur vie.
Ouais. Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler que la parentalité est le rôle le plus exigeant d'une vie par définition, on va blesser nos enfants.
C'est ça.
On sera jamais les parents parfaits. Et donc, on va devoir composer avec cette culpabilité de ne pas leur avoir donné toutes les cartes pour avoir un chemin tout tracé et vivre dans cette confiance que même ces choses qu'on aurait voulu qu'ils ne vivent jamais, tu parles de votre séparation. Moi, je regrette beaucoup de choses que j'ai dites à mes enfants je suis sûre ont eu des conséquences sur eux. Enfin, que j'ai dit, que j'ai crié. je regrette aussi ces années où ils nous ont vus et entendus nous disputer de manière violente. Je sais que ça va avoir des conséquences sur leur histoire. Parfois, je me pose des questions aussi. Voilà, j'en sais rien sur, tu vois, sur mes choix professionnels, sur mon équilibre travail-foyer, sur. Et en fait, ouais, je crois qu'on est obligé en tant que parents d'accueillir le fait qu'on le veuille ou non, on leur fera entre guillemets du mal, mais que ils ont leur propre responsabilité dans leur vie de faire avec ces casseroles-là quelque chose de beau. Et malheureusement, on pourra pas faire ce travail à leur place. On va pouvoir, je pense quand même, avec une attitude la plus vulnérable possible, avec aussi l'humilité de demander pardon, de nous-mêmes accueillir notre imperfection. Je pense qu'on peut leur simplifier un petit peu le travail. J'en suis assez convaincue. Mais en tant que parent, on est obligé d'accepter que on n'offre pas toujours le meilleur à nos enfants. Et c'est tout.
C'est ça. C'est un vrai. Enfin, tu vois, je me rappelle parce que je me suis fait pas mal conseiller sur comment annoncer la séparation aux enfants parce que c'est quand même un vrai sujet. Et en gros, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, bon, déjà, si toi tu es, si toi t'es bien, les enfants seront bien. Bon, clairement, j'étais pas bien, mais,
oui.
Mais bon, voilà.
Ça peut être plus culpabilisant qu'autre chose,
c'est
en
ça,
effet.
Mais bon, après ils m'ont dit, écoute, enfin en fait ils m'ont dit, si toi t'es en accord avec tes choix, en fait c'est ce qui compte avant tout, c'est donc en gros, si tu décides de quitter la maison parce que voilà, les enfants en fait s'ils voient que t'es bien dans un nouvel appartement, ils seront bien. C'est vraiment de se dire avec quoi toi tu es à l'aise pour que tes enfants ils soient à l'aise, parce que si toi t'es toi-même t'es pas à l'aise, et clairement c'est ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en fait évidemment que tu vas faire du mal à tes enfants, hein, y a pas de question. Mais le truc, c'est que c'est se dire, dans ce contexte-là, comment tu fais au mieux, et puis se dire que finalement, mieux vaut deux parents heureux séparés que deux parents ensemble malheureux, quoi.
Ouais. Ouais, et les enfants sont des éponges, donc ils le sentent, ça.
C'est ça, clairement. Ouais. Et donc du coup, donc vous mariez, ton mari te fait écrire, t'es encore prof. À quel moment tu vas dire, allez, j'arrête?
Alors il m'a quand même tanné pendant au moins 2-3 ans en me disant, tu pars tous les matins malheureuse, tu pars en pleurant au boulot dans ton boulot de prof, mais qu'est-ce que t'attends? Enfin, c'est quoi ton problème, en fait? Pourquoi tu poses pas ta démission? Vraiment, il comprenait pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lâcher. Et puis, au bout d'un moment, j'ai lâché. Alors, lui était graphiste de formation. Et donc, à l'époque, il était auto-entrepreneur. Et puis, il était... Le terme exact n'est pas associé, mais il travaillait avec un autre auto-entrepreneur qui était développeur web. C'était vraiment les deux geeks dans leur appart strasbourgeois pas aéré, qui bouffaient des pâtes et du steak devant les Simpsons, qui se levaient à midi et qui bossaient jusqu'à 2h du matin. Et donc, ils ont créé le tout début de ce qui aujourd'hui est devenu une agence de communication. Et donc, j'ai démissionné de l'éducation nationale pour me joindre à ce duo et faire alors de la relation client, parce que voilà, à cette époque-là, ils répondaient pas encore à leurs messages vocaux et tout, tu vois, c'était quand même ça allait pas. Et puis pour écrire, puisque en fait c'était le tout début des blogs, et en fait le tout début de la compréhension que un site vitrine c'est bien, mais le faire vivre c'est encore mieux, que sur internet les gens ne lisent pas, en fait il faut réussir à attirer l'attention, voilà. Donc en fait je suis devenue ce qui à l'époque le nom n'existait pas, mais une sorte de copywriteuse, tu vois, pour nos clients, voilà. Mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. Hein. Ça s'appelait, je sais pas, rédactrice ou j'en sais rien. Enfin, voilà. Et donc, ouais, c'est rédacteur web. Ouais, ça fait un peu kitsch aujourd'hui de parler comme ça. Mais le monde a changé entre temps. Et Et voilà, donc je suis restée avec eux un petit paquet de temps et puis on a officiellement donc créé une société qui est aujourd'hui une agence de communication et voilà. Donc jusque là tout va bien. Je me dis waouh, pourquoi est-ce que j'ai perdu mon temps dans l'éducation nationale? J'adore aller je dis au bureau le matin, mais tu sais, c'était même pas un bureau, on avait loué un sorte de lieu, de tiers lieu trop bizarre dans des ruines industrielles où il y avait des artistes qui faisaient des peintures de 5 mètres par 8 sur les murs. Il y avait écrit des gros mots que je ne répéterai pas aujourd'hui sur les murs. Et là, nous on était là au milieu de cette friche industrielle avec nos ordinateurs. Enfin voilà, c'était la belle vie. On vivait avec rien. Et en même temps, on stressait pas pour payer le loyer, les factures. Je pense que c'était vraiment la fougue de la jeunesse. Et rétrospectivement, je suis hyper contente d'avoir vécu ça parce que tu vois, moi j'ai 36 ans et j'ai des amis aujourd'hui qui veulent se lancer dans le business. Et en fait, le gros avantage que moi j'ai eu, c'est d'avoir vécu ça très jeune, quand j'avais besoin de rien en fait. J'étais habituée à aucun confort et en fait, tu vois, parfois ils me disent mais j'arrive pas, je perce pas. Bon, après il y a plein de raisons pour lesquelles un business peut ne pas percer, mais moi, mon moteur principal, tout au début de cette première boîte qu'on a lancée ensemble, c'était de manger. Donc en fait, à un moment donné, tu le fais. Parce que t'as juste pas le choix en fait, et s'il y a pas de solution, tu la trouves parce que ta facture d'électricité va falloir la payer à un moment donné. Et je pense que ça a été des années formidables d'apprentissage parce qu'on n'avait pas peur. Alors il y a eu des moments quand même beaucoup plus durs parce qu'entre temps les enfants sont arrivés. Voilà, il s'est passé des choses compliquées. On a fait confiance à des gens à qui on n'aurait pas dû faire confiance, pardon. On s'est retrouvé endetté de 100 000 euros. Là, on faisait moins les malins. Tu vois, quand on a dû emprunter de l'argent à des potes pour payer le loyer, là, ça a été quand même beaucoup plus dur. Et en même temps, on avait encore une sorte de fougue d'énergie de la jeunesse dans... Ouais, à 23, 24, 25, 26 ans. Et on n'a rien lâché parce qu'on n'avait pas le choix. De toute façon, j'avais démissionné de l'éducation nationale, donc on ne pouvait plus compter là-dessus. Et je crois que l'entrepreneuriat, autant que la maternité d'ailleurs, ça m'a changé, quoi. Ça m'a vraiment donné une niaque. Une rage de vaincre. L'audace de dire ce que je pense. De mettre mes tripes sur la table et de dire, bah voilà, ça c'est moi. Tu veux ou tu veux pas. T'es pas obligé. Mais si tu veux. Enfin, tu vois, vendre aussi, se vendre. Parce que tu peux vendre des clous. Ou des pneus, ou voilà. Mais quand tu vends toi, en fait, quand tu vends ton travail, tu as besoin d'avoir une estime de toi-même assez solide. Tu as besoin de t'affirmer, tu as besoin, voilà. Et clairement, entreprendre m'a énormément appris et sur moi et m'a beaucoup, 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 beaucoup fait grandir. Voilà. Ouais.
Et justement, du coup, l'arrivée des enfants, donc les premiers, c'est les jumeaux.
Donc, les premiers, c'est des jumeaux. Donc, moi, je suis toute contente parce que j'ai enfin trouvé le job qui me plaît et tout. Et alors, c'était un choix. On a décidé, on faisait nos petits calculs et on se disait, bon, quand on aura 40 ans, on veut des enfants de quel âge, tu vois? Et on s'est dit, ah, ce serait cool qu'ils soient déjà grands. Et donc, on dit, bah, vas-y, on s'y met direct. Sauf qu'on s'attendait pas à avoir des jumeaux du premier coup.
Et t'avais quel âge?
J'avais 26 ans. Et je suis tombée de très, 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 très haut. Et j'ai été extrêmement jalouse de mon mari. Qui partait au boulot le matin j'ai été extrêmement jalouse de ses collègues, en fait, parce que la boîte commençait à marcher, on commençait à recruter. Et moi, en fait, qui avais bossé gratuitement pendant des années, ben maintenant que les fruits étaient prêts à cueillir sur l'arbre, ben, j'étais plus là et j'étais toute seule chez moi avec mes deux bébés. Donc, j'ai été très, très jalouse. Et je pense que ça a été le début aussi de notre longue crise de couple. Parce que lui, le pauvre, il n'y pouvait rien. En fait, c'est moi qui avais décidé de rester à la maison. J'aurais pu les faire garder si je voulais, mais je voulais pas non plus. Donc, c'était le « je veux, mais je ne veux pas ».
T'as pris un congé parental de combien de temps ?
Ouais, 3 ans.
Waouh !
Ouais. Ouais, j'ai pris un congé parental de 3 ans en me disant... En fait, j'étais tiraillée hein, dès le départ. Je voulais bosser, mais je voulais pas. Je me disais, mais attends, si j'ai fait des enfants, c'est quand même pour être avec eux. Puis en plus, j'en ai deux en même temps. Et puis, vu ce que je gagne, honnêtement... je gagne même pas de quoi payer 2 places en crèche. Donc, voilà. Je me suis enfermée moi-même dans un modèle où j'avais pas le choix de rester à la maison 3 ans. Et puis, voilà, ça venait clairement aussi du modèle de ma maman pourquoi elle était conjoint collaborateur, c'est pour passer du temps aussi avec nous à la maison, quoi. Mmh. Et donc, je m'étais créé ce modèle de la maman qui est là pour ses enfants. Personne ne m'a obligée à le faire. Et au contraire, c'est mon mari qui me suppliait de reprendre le boulot, quoi. Puisqu'il dit, là, t'es en train de te noyer. Tu deviens chiante, en fait. Enfin, va bosser, si c'est ça que tu veux. Et en même temps, franchement, avec le niveau de fatigue, les 2 bébés que j'avais, je me voyais pas non plus me lever le matin pour aller au travail. Ça m'allait aussi de traîner en pyjama jusqu'à midi, tu vois. Donc, c'était vraiment, c'était un bric-à-brac, c'était la peste ou le choléra. Et donc, j'ai choisi de rester à la maison 3 ans avec mes jumeaux. J'ai beaucoup galéré et j'ai beaucoup appris. Je me rends compte qu'en enregistrant ce podcast, c'est très facile à dire après coup, hein, mais les périodes pendant lesquelles on est les plus sous pression, sont quand même les périodes qui nous font le plus grandir.
Ah bah, c'est sûr.
Et voilà, et cette parenthèse au foyer, ça a été la chance de ma vie de me retrouver seule face à moi-même, de plus être celle qui brille en famille, en société, au boulot, de plus être justement le petit soleil et de faire face à ce que j'avais vraiment à l'intérieur de moi qui n'était pas très beau à voir. Et voilà, alors j'ai mis les mots burn-out maternel après, mais voilà, concrètement, je pleurais toute la journée, je criais sur mes enfants, après je pleurais d'avoir crié parce que j'étais justement cette mère que je voulais jamais devenir. Et puis j'ai eu le courage de prendre un premier rendez-vous chez une psy parce que voilà, dans le monde dont je venais, c'était quand même un truc de loser, quoi. C'est vraiment si tu vas consulter, tu sais, c'était l'époque où on disait je vais voir quelqu'un. Aujourd'hui, je trouve que c'est vachement
plus, c'est sûr.
Normal, tu vois, d'aller voir un psy.
Au bout de combien de temps tu es allée voir une psy?
Et ben 2015, donc mes enfants avaient 3 ans. Tu vois, quand ils sont rentrés à l'école maternelle. Donc, c'était quand même tard. Mais voilà, en tout cas, premier rendez-vous, la psy me dit « Alors, si vous ne le faites pas pour vous, il faudra quand même le faire pour vos enfants. Hein, » parce que... Et ça a été la phrase qu'il me fallait, quoi. Je me suis dit « Ok, ben, je le fais alors, je le fais pour eux. » Et je pense que je n'aurais jamais fait cette première thérapie. Du coup, on n'aurait jamais fait notre deuxième thérapie de couple derrière. Clairement, j'aurais jamais lancé ma boîte non plus. Donc, ouais, cette parenthèse au foyer a changé ma vie. Et c'est pour ça que je persiste. Alors, je sais pas si mon équipe me laissera faire longtemps, mais je persiste à laisser dans l'URL de mon site internet le mot foyer, fabuleuse au foyer. Alors, c'est quand même ça frise le gros mot aujourd'hui, tu vois. Le mot foyer. Mais j'aime bien jeter des pavés dans la mare. Et moi, le foyer, voilà, j'ai voulu le fuir, je l'ai détesté, mais en même temps je l'ai aimé et en même temps voilà, il m'a transformée et j'ai envie de parler de ce chapitre de la vie des femmes qui se joue à l'intérieur du foyer. Alors il reste encore quelques vraies femmes au foyer, mais ça c'est quand même de plus en plus rare. Mais voilà, on parle quand même beaucoup de la femme au travail et c'est très bien, ma mission à moi, la mission que je me suis donnée, c'est de parler de ce qui se passe dans notre foyer. Parce que même si on n'est pas femme au foyer à plein temps, on a un foyer. On y est le matin, le soir.
C'est ce qu'on dit. Hein, et... Le soir où on rentre à la maison et qu'il y a les enfants, tu commences la troisième journée de travail, quoi.
Exactement. C'est... Exactement. Et même quand t'es au bureau, ton foyer, il est toujours dans ta tête parce que tu te dis merde, est-ce que j'ai mis un goûter dans le cartable
Est-ce que j'ai pris rendez-vous pour les vaccins?
Exactement. Exactement. Et donc voilà, ce congé parental a été le début du reste de ma vie, du côté de ma relation avec moi-même, du côté de ma relation avec mon conjoint, avec mes enfants, et puis côté professionnel aussi.
Donc là, tes enfants rentrent à l'école, ils ont 3 ans, tu commences du coup à te faire suivre. Le projet, c'était de retourner dans le travail avec ton mari.
Alors, entre-temps, j'avais lancé le blog des Fabuleuses parce que j'avais quand même compris pendant la dernière année du congé parental, donc les enfants avaient 2 ans, j'avais quand même compris que ce serait peut-être intelligent de les mettre un petit peu à la garderie pour respirer un peu. Et voilà, je me souviens que la mort dans l'âme, j'avais rempli le papier de la halte garderie du village en disant voilà, situation professionnelle en congé parental. Et j'avais honte, tu vois, de demander de l'aide pour les garder alors que j'avais que ça à faire de m'occuper d'eux. Mais je l'ai fait. Et donc, j'avais comme ça 2, 3, 4 heures par semaine pour moi toute seule. Et donc, j'ai commencé à écrire ce qui se passait dans ma vraie vie de maman. Pas du tout sexy. Et alors, parce que mon mari m'a mis beaucoup de coups de pied au derrière, encore une fois, René, je les ai publiés. Et voilà, c'était le début aussi des blogs personnels et tout, voilà. Et en fait, au début, c'est mes copines qui le lisent et très rapidement, elles l'envoient à des copines et je commence à recevoir des messages de gens que je ne connais pas. C'est quand même hallucinant. Et qui me disent, t'as mis des caméras chez moi ou quoi? C'est pas possible. Ça me fait tellement du bien. Je lis ma propre vie quand je lis la tienne. Donc, ça a été une vraie thérapie pour moi. Je me sentais vraiment moins seule. Et donc, ce blog des Fabuleuses commence à prendre une certaine ampleur. Il y a un premier bouquin, il y a un passage à la télé, ça prend sa petite ampleur. Et je me retrouve face au choix de retourner dans l'éducation nationale. Et là, en fait, c'est mon mari qui me dit, ben, t'as 2 options. Option 1, tu reprends ton job de prof et ton truc de Fabuleuse, en fait, peut-être qu'une fois par mois, t'auras l'énergie d'écrire un article et ce sera sympa et ça restera le loisir que c'est. Soit t'appuies sur l'accélérateur et en fait ça devient ton activité à plein temps, mais dans ce cas-là il va falloir générer de revenus, donc en l'occurrence il va falloir appuyer très très fort sur le champignon. Donc j'avais une première expérience plus ou moins entrepreneuriale parce que je faisais partie de ce trio de mon mari, son associé et moi. Donc, j'avais une petite idée de ce que ça voulait dire et voilà, j'avais tellement pas envie de reprendre mon boulot de prof que j'ai dit ok.
Pourquoi c'était quoi du coup l'opportunité de retourner dans l'éducation nationale?
C'est-à-dire que j'étais encore en fin de congé parental, donc mon poste m'était encore réservé à ce moment-là.
D'accord. En fait, à l'époque, ça avait démissionné, mais t'étais pas d'accord. Ok.
C'est à ce moment précis que j'ai posé ma démission. Oui, pour être plus précis, c'est que d'abord j'ai eu mes 3 années de congé parental auxquelles j'avais le droit. Ouais. Et que c'est à la fin de ce congé parental que j'ai été mise face à un choix.
Ok. En fait, t'étais plus titulaire, t'étais plus en remplacement, donc t'étais en mode dispo, mais tu bossais du coup pour ton mari. Et après, du coup, t'as eu tes enfants et.
Okay. Exactement. C'est exactement ça. Ouais.
D'accord.
Donc voilà. Et puis.
Et le livre, du coup, ça s'est passé comment le premier livre
Alors le premier livre, c'est une fabuleuse donc qui lisait mon blog, qui sans que je le sache m'a inscrite à un concours sur la chaîne de télé qui s'appelle Teva. Et la chaîne de télé Teva organisait une sorte, un concours, je sais pas comment le dire autrement, sur la femme de l'année, la femme Teva 2015. Et en fait, cette personne qui fait partie de mes lectrices, sans que je le sache, a envoyé ma candidature à ce truc-là. Et donc, moi, je suis au courant de rien et je reçois un coup de fil. Oui, bonjour, m'appelle Candice du groupe M6. Vous faites partie des 10 finalistes. Venez la semaine prochaine. Vous passez à la télé. Et en fait, là, c'est clairement mon entrepreneur de mari qui m'a dit « Tu vas pas passer à la télé et avoir rien à proposer, là. Il faut montrer qui t'es. Il faut, voilà. Donc, viens, on fait un bouquin avec les textes de ton blog. » Je dis « Mais quoi? Mais comment? Mais on n'a pas d'éditeur, on n'a pas de… » Il me dit « Laisse-moi faire, laisse-moi faire. » Et dans l'après-midi, j'ai un appel d'un éditeur, un petit éditeur parisien, première partie. Voilà, le monsieur s'appelle Pierre et il me dit « Oui, ton mari m'a appelé. Écoute, on va faire un livre. Les mamans, c'est vraiment important. » Voilà. Donc, en 3 semaines, on a sorti ce livre qui était un recueil de textes qui étaient déjà publiés sur le blog. Et du coup, je suis arrivée dans cette émission et j'ai pas gagné, mais j'ai rencontré en fait des gens extraordinaires qui travaillaient là-bas au groupe M6 et notamment une dame qui m'a dit mais qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-moi ce que vous faites. Et en fait, mon mari a eu une idée géniale parce que j'ai eu un objet à lui donner, tu vois, j'ai eu quelque chose qui résumait toute la philosophie de ce que j'avais essayé de faire. Je lui ai donné ça et elle a dit « On veut bosser avec vous ». Et donc, ils sont devenus partenaires du livre. Il y a eu des passages télé, des passages radio. Enfin, voilà, c'était…
Incroyable.
C'était juste extraordinaire comme histoire. Et ça a clairement été un accélérateur pour les fabuleuses. Et tu vois, ça, c'est l'une des 100 000 idées que j'aurais jamais eu toute seule et que mon René a eu pour moi. Et j'adore parce que moi, en fait, j'ai qu'à me concentrer sur écrire, c'est ce que je sais faire. Et lui, il me dit, vas-y, fais ça. Et je lui fais confiance parce qu'à chaque fois, c'est une bonne idée. Enfin, pas toujours, mais souvent.
Ne nous emballons pas. S'il nous écoute, attention. et cette personne, tu sais du coup qui c'est, cette personne qui t'avait inscrite
Oui, je sais. Elle s'appelle Stéphanie de Tellier. Je l'embrasse si elle m'écoute. Et puis, elle est devenue entre-temps contributrice aussi sur le blog des Fabuleuses. On s'est rencontrées. Ouais, c'était une des toutes premières contributrices au site. Et une femme avec un sens de l'humour voilà qui m'a toujours beaucoup touchée et qui était urbaniste de formation, donc rien à voir avec ce qu'on faisait, et ça a été une des premières personnes qui m'a donné envie de croire en fait en mon projet, parce que je me rendais compte qu'on touchait des gens de toutes sortes d'horizons, des mamans qui était au foyer pour cause de congé maternité ou congé parental, des journalistes, des avocates, des hôtesses de caisse, une urbaniste, des profs, des infirmières. Enfin, voilà.
Bah, c'est un sujet qui touche tout le monde.
C'est un sujet qui touche tout le monde.
Ouais. Et donc là, tu te dis, ok, c'est parti. J'ai envie de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec les Fabuleuses. C'était quoi ton idée, ton projet à ce moment-là? Tu disais, oh, les Fabuleuses, c'est quoi?
À ce moment-là, les Fabuleuses, c'était la punchline que j'utilisais tout le temps, c'était révéler la fabuleuse en chaque maman. Donc les Fabuleuses, c'était rendre visible les exploits qui sont accomplis par les mères à l'intérieur de leur famille, de leur foyer, et pour lesquels elles seront jamais applaudies. Voilà. Au départ, c'était ça. Et plus les choses ont avancé, plus la vision s'est affinée pour que aujourd'hui je puisse te répondre. Les Fabuleuses, c'est prendre soin de la santé émotionnelle des mamans. C'est-à-dire qu'au départ, on était vraiment dans rendre visible et leur offrir de la reconnaissance, chose dont elles avaient besoin. Mais finalement, ce besoin de reconnaissance n'était que la partie émergée d'un iceberg qui s'appelle épuisement. Burnout, et pour plein de raisons, je pense que c'est un... Voilà, je suis pas sociologue, mais j'ai quand même un joli petit poste d'observation avec mes 150 000 Fabuleuses. J'ai mis bout à bout, j'ai 8 personnes à plein temps qui répondent aux messages qu'on reçoit tous les jours et aux témoignages qu'on reçoit. Et en fait, voilà, il y a un vrai phénomène de génération d'épuisement maternel qui s'explique par plein de raisons. Et voilà, aujourd'hui, les Fabuleuses, pour moi, c'est un... J'essaye en tout cas de bâtir un phare dans la tempête. Voilà, parce que devenir maman, c'est une tempête sur l'estime de soi. Tu croyais que voilà, ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. En fait, c'est ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'emmerdes. Et en fait, tu te retrouves, tu te noies en fait. Et comme t'as l'impression d'être la seule, tu te juges beaucoup. Et en fait, tu te dis, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Donc, en termes de voilà, tu perds ton estime. D'où ce mot fabuleuse, encore une fois, qui est très bisounours, mais qui fonctionne. C'est-à-dire, ben, t'es persuadée de pas l'être, mais moi, mon job, c'est tous les jours de te rappeler que tu l'es, voilà, et que t'as rien à faire pour ça, et que la fabulosité, c'est pas du tout la perfection, bien au contraire, c'est la vulnérabilité, c'est accueillir mon imperfection et avancer quand même, et se rendre compte que c'est ça qui rend service au monde, en fait, c'est que je sois juste moi avec tous mes défauts. Et voilà, donc les fabuleuses aujourd'hui, c'est le phare qui permet à un maximum de mamans qui se noient dans l'autocritique, la culpabilité, le jugement, la pression. Parce que je fais une petite parenthèse, mais c'est évident que la société met une pression hallucinante sur les mères aujourd'hui. Mais cette pression, elle est internalisée. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu te sens coupable, c'est que tu t'es laissé culpabiliser. Et pourquoi tu t'es laissé culpabiliser? C'est parce que ton panier est percé à un moment donné. Donc c'est à toi de décider que non, et c'est à toi de pas être une victime, d'être responsable et de dire stop en fait à cette pression. Et je sais plus où je voulais en venir. Enfin voilà, le phare des mamans qui se noient dans la tempête.
Mais ça, je pense. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, tu vois, c'est un message que j'ai beaucoup entendu de mes invités du podcast sur le fait que tu as le choix de ne pas être une victime et justement de prendre le dessus et de ne pas être dans cette posture de victime. Et bon, du coup, je l'ai bien expérimenté cet été. Et clairement, en fait, tu as le choix. En fait, soit tu subis, soit tu agis. Ouais. Et à partir du moment où, tu vois, moi, je sais que le nombre de fois où j'entends « oui, les entreprises sont responsables du bonheur de leurs salariés », moi, ça me met en colère, en fait, quand j'entends ça, parce qu'en fait, oui, il y a une responsabilité de bien traiter ses salariés, il n'y a pas de débat. Mais en fait, on est responsable nous-mêmes. Moi, je sais que, tu vois, j'ai fait un burn-out parce qu'en fait, je ne m'aimais pas. Donc, comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas. Et donc, je ne me faisais pas respecter, en fait. Et c'est fou de voir, en fait, tu vois, j'avais un homologue qui avait le même poste que moi au niveau commercial. Moi, c'était marketing. Le CEO, donc notre boss respectif, se comportait pas de la même façon avec le mec qu'avec moi. Et c'est pas parce qu'il était pas misogyne, c'est pas le sujet. C'est juste qu'en fait, moi, j'avais des failles et je laissais entrer des trucs et je mettais pas des barrières et que lui, enfin, que l'autre mettait bien, quoi.
Carrément. Alors, je sais pas si la métaphore est juste, mais c'est un peu comme les chiens qui reniflent la peur. Et à un moment donné, en fait, c'est notre posture, en fait, qui va faire que des personnes s'engouffrent dans la faille, comme tu le dis.
Exactement.
Après, tout n'est pas excusable, ça, c'est évident. Mais pour moi, ça a été aussi une clé, justement, de reprendre en main le trousseau de clés et de plus le donner aux autres. Et ça, on en est chacun responsable pour nous-mêmes, comme tu le dis très bien.
Ce qui est une super, ce qui est une magnifique nouvelle, parce que bon, il y a des gens qui pourront se dire ah ouais, mais bon, mais en fait c'est génial parce qu'en fait on est acteur de notre propre vie, quoi. On a la possibilité de faire en sorte que de voir du positif partout, même si potentiellement t'as une grosse semaine de merde. Il y a toujours du positif, tu vois. Ce que je disais l'autre jour, maintenant je suis parisienne mais je vis à Marseille. À Marseille, il n'y a pas un jour où tu vois pas le soleil. Ça n'existe pas, en fait. Même un jour où il pleut toute la journée, il y a forcément le soleil. Et je trouve que c'est une belle métaphore de la vie. C'est que même dans une journée où tu as eu que des merdes, il y a forcément le soleil qui va apparaître.
C'est beau. Et si... Je peux pas dire la même chose de Bordeaux. Parce que quand il pleut, il peut pleuvoir 6 mois, tu vois.
Mais si, après, en même temps, comme on dit, le soleil, il est derrière les nuages.
Ouais, c'est vrai.
Puis moi, maintenant, j'assume le fait qu'en fait, moi, je suis, même quand il fait pas beau, de toute façon, moi, je suis sur l'arc-en-ciel avec les bisounours. Ah. Donc, dans tous les cas, maintenant, le soleil, je le vois toujours.
Et c'est vrai, c'est juste ce que tu dis. C'est tellement une histoire de regard. C'est tellement une histoire de lunettes qu'on décide de porter. C'est très juste.
C'est un vrai entraînement, hein. De toute façon, bien entendu, hein, que c'est pas facile et qu'il y a des jours, qu'il y a des jours qui sont moins faciles que d'autres. Mais en fait, ouais, si tu te dis, bah voilà, il y a du positif dans tout, bah tu vas vraiment, c'est un vrai entraînement mental et ça marche. Hein. Et donc du coup, donc tu te lances dans l'entrepreneuriat et comment ça se passe?
J'ai toujours été portée par les retours, les témoignages, les questions, les eureka, les victoires aussi des fabuleuses que j'accompagne depuis donc. 2014, début du blog, 2015, vraiment gros coup d'accélérateur. Donc, ça fait quand même bientôt 8 ans, 9 ans en tout. Je viens de faire le calcul dans ma tête, je me rends compte que c'est pas si mal. J'ai toujours eu voilà, l'impression de tirer sur un fil et à chaque fois de me dire « Non mais c'est bon, là, maintenant, on a tout dit là sur l'épuisement maternel, on va pas pouvoir aller plus loin. » Et à chaque fois... De réaliser à quel point c'est central aujourd'hui et à quel point ça répond à un vrai besoin chez les gens. Donc, enfin, tous les jours, il y a des histoires de dingue, de fabuleuses. Alors, les pires, c'est les tentatives de suicide. Hein, y en a quand même régulièrement. Et c'est là où on se dit, mais c'est dingue. En fait, il y a autant de mamans qui vont pas bien. Il y a beaucoup de mamans qui sont sous médicaments et qui parviennent à plus ou moins passer à autre chose grâce aux nouvelles habitudes qu'elles prennent avec nous. Voilà, des couples qui se déchirent. Il y a des mamans qui sont dans l'alcool. Alors heureusement tout le monde ne va pas aussi mal, mais voilà, je pense que plus le temps passe et plus ma détermination à proposer des solutions est grande. Plus ma détermination est grande, plus j'ai besoin d'aide. Et pour moi, cette aventure d'entrepreneuriat a été magnifique et à la fois très, très challengeante parce que j'ai très, très rapidement commencé à recruter. Et recruter
donc, du coup, les salariés.
Des salariés. Voilà, j'en ai aujourd'hui 14.
Wow.
Et plus, sans compter en fait les contributrices ou alors les coachs qui travaillent d'un petit peu plus loin et qui travaillent comme ça quelques heures par semaine, mais qui sont pas à plein temps. Mais on est 14 à plein temps ici à Bordeaux. Et recruter, ouais, ça a été une énorme aventure. Si je l'avais pas fait, je pourrais pas aider autant de mamans aujourd'hui. Et en même temps, c'est une pression incroyable, une pression financière sur mes épaules de fou, parce que il faut les payer ces gens-là et que j'ai toujours voulu qu'ils soient correctement payés parce qu'on n'est pas voilà, j'ai pas voulu construire une asso ou une ONG parce qu'en fait j'ai envie de bosser avec des gens qui ont envie d'être là et à qui je peux donner aussi des moyens. En parlant, je me rends compte que ça existe les assos et les ONG qui ont les moyens, mais c'est juste qu'ils savent les trouver autrement. Peut-être par par du fundraising ou des choses comme ça, chose qui n'est absolument pas mon métier.
Ça me fait penser à d'ailleurs, elle est à Bordeaux aussi. Ça me fait penser à Anne-Sophie Vive qui a créé
oui,
les Burnettes.
Les Burnettes, ouais, on s'est rencontrés.
Ouais, et elle arrive.
Génial.
Elle arrive justement à trouver des financements, mais c'est après finalement c'est un autre métier.
C'est un autre métier. C'est un autre métier. Et j'admire beaucoup Anne-Sophie que j'ai rencontrée parce que justement je me suis dit waouh, elle sait chercher, elle sait chercher des subventions, elle sait faire des dossiers, elle sait, tu vois. Et c'est vrai que bon alors moi j'ai beaucoup connu le modèle associatif dans mon enfance et ma jeunesse et je pense que voilà j'ai ça doit certainement être aussi une petite réaction épidermique chez moi, la volonté d'entreprendre, parce que c'est aussi une liberté d'investissement dans ce qui te paraît important. Voilà, donc clairement, je pense que c'est un choix qui est fondé aussi dans mon histoire et les limites que j'ai vues d'un certain côté. Maintenant, voilà, c'est pas du tout simple ni parfait ce que je vis dans mon entreprise, hein. Mais j'adore ça. Ça me fait beaucoup grandir de tenir cette pression financière et puis aussi de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Je pense que c'est ça en fait l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis hyper fière.
Le vrai bon manager, c'est ça.
Et je suis fière de mon équipe. Je suis fière de mon équipe parce que dans différents domaines, il y a beaucoup de gens qui savent mieux faire que moi et j'espère qu'il y en aura toujours plus. Et puis, ça nous permet aussi de toucher plus de mamans puisque en fait, forcément, comme on a un ton, une ligne éditoriale qui est très incarnée, ben voilà, moi je vais raconter ma vie, mais je prends l'exemple d'Anna Latron qui m'a rejoint il y a 4-5 ans. Elle a une toute autre histoire, elle a des enfants extraordinaires. Bon ben, elle est arrivée, elle a lancé une sous-communauté qui s'appelle les Fabuleuses Aidantes et qui fait un bien fou à quantité de mamans et que moi j'aurais jamais pu gérer parce que j'aurais rien à dire en fait sur ce sujet-là. Fleur Lispaluy nous a rejoint, c'est une illustratrice, c'est elle qui est à la barre de notre compte Instagram. Et ben voilà, c'est la reine des BD. On a édité d'ailleurs sa première BD là il y a quelques mois. Et ben elle raconte les histoires encore différemment.
C'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait c'est se dire, j'avais interviewé Christine Michaud qui fait la psychologie positive, qui a écrit des livres, enfin qui a été chroniqueuse, elle est québécoise. Là au Québec, c'est quelqu'un qui est très très connu et reconnu. Et Christine, elle disait que en fait elle faisait des chroniques sur des livres et un jour elle se dit mais moi j'aimerais bien écrire, mais elle se sentait complètement le syndrome de l'imposteur et elle dit non mais moi enfin qu'est-ce que je pourrais écrire, en fait tout a été écrit sur ce sujet-là. Et la personne lui répond mais Christine oui mais pas par toi.
Ouais.
Et on a vraiment tous, enfin en effet tous les sujets ont été traités ou presque, mais pas par nous. Et en fait on a chacun son histoire, sa sensibilité, sa vulnérabilité à partager, et c'est ce qui fait que s'il y a des personnes qui se disent bah tiens moi j'aimerais bien me lancer là-dessus mais que ça a déjà été fait. Oui, mais pas par toi.
Exactement, j'allais dire. Pourquoi pas moi? Ouais.
Et donc là, du coup, tu as une équipe de 14 personnes. Aujourd'hui, c'est quoi votre business model?
Alors, nous, premièrement, ce qui est vraiment aujourd'hui la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est la partie immergée de l'iceberg qui s'appelle le village. Donc, on est un média qui donne beaucoup de contenu gratuitement. Ce qui est gratuit également, c'est le mail du matin que j'envoie depuis 5 ans tous les matins. C'est la petite piqûre de rappel pour pas oublier de prendre soin de toi quand t'es maman.
C'est toi qui écris.
Ouais, c'est moi qui écris. On pourrait parler un podcast entier sur l'exigence d'écrire tous les jours.
Oui. Ouais, c'est ça, ouais.
Et en même temps, ça me permet de rester aussi en contact en fait avec ma communauté et de pas devenir une sorte de, tu vois, d'entrepreneuse dans les nuages. Et ouais, j'adore. Et puis, avant d'être une entrepreneuse, moi, je suis une créatrice de contenu. Donc, si je le fais plus,
je
me perds vraiment. Et le village, c'est tout ce qu'on donne gratuitement, ce serait ce fameux adage, je sais pas si c'est un proverbe africain. Si tu veux aider quelqu'un qui a faim, tu peux lui donner un poisson. Enfin, je sais pas si je le dis bien, mais si tu veux l'aider sur la durée, apprends-lui à pêcher. Moi, c'est un peu ça. Ce qu'on donne gratuitement, c'est du poisson. Et le village, c'est je t'apprends à pêcher pour justement, comme on le disait tout à l'heure, reprendre en main ton indépendance émotionnelle et être capable dans tes journées, de retrouver ton peps, d'avoir envie de te lever le matin, de te réconcilier avec toi-même, d'apprendre à t'aimer, voilà. Donc le village, je suis assez fière du nom que j'ai trouvé pour cette communauté, parce qu'il faut un village pour élever un enfant, mais nous on dit qu'il faut un village pour soutenir une maman. Et donc très concrètement, c'est un abonnement C'est une formation sur abonnement. Plus de 6000 mamans sont passées par le village. Et d'ailleurs, plusieurs, de très nombreuses villageoises nous ont dit « on veut pas que ça s'arrête ». Donc, on a créé une suite, un village 2 et aujourd'hui même une communauté qui s'appelle « La Grande Famille » qui est accessible que aux anciennes villageoises. Et donc, on les appelle les sisters, c'est-à-dire c'est les grandes sœurs qui ont envie de rester là parce qu'elles, elles veulent pas se couper de tout ce qu'elles trouvent de beau et de bon dans cette communauté, et aussi parce qu'elles justement elles veulent être des grandes sœurs pour les plus jeunes mamans, ou en tout cas les plus jeunes fabuleuses qui arrivent, parce que certaines fabuleuses ne sont pas si jeunes que ça et se découvrent fabuleuses pour certaines à 55, 60, 65 ans et disent oh, j'aurais tellement voulu entendre ça il y a 30 ans, mais en fait je veux apprendre pour moi, je veux apprendre à m'aimer et je veux apprendre aussi parce que je veux pas dire d'ânerie à mes filles qui, elles, sont en train d'avoir leurs premiers enfants, et je veux apprendre à être là pour elles, quoi. Donc, le gros de notre business model, il est autour du village. Ensuite, on fait du papier. On a publié, voilà, moi j'ai publié 2 livres chez Première Partie. Entre temps, on a monté notre propre maison d'édition. On a publié plusieurs MOOC. Donc, c'est à la frontière entre le magazine et le livre. Je sors là maintenant tout de suite aussi mon nouveau livre Que ta journée soit belle, où je raconte toute mon histoire, et qui est le j'ai distillé justement certaines choses dans ce mail du matin que j'écris depuis 5 ans, mais j'ai eu besoin d'assembler le puzzle, de raconter des choses qui n'avaient encore jamais été racontées, et puis d'avoir aussi un objet papier, parce qu'on a tellement en fait de fabuleuses, de grandes sœurs dont la vie a changé depuis toutes ces années, et qui sont des ambassadrices et qui parlent des fabuleuses tout autour, mais qui n'ont pas forcément jusqu'à aujourd'hui, qui n'avaient pas forcément de support aussi pour dire ben tiens, les fabuleuses c'est ça. Et d'où le titre aussi, Que ta journée soit belle, qui est la signature en fait de tous mes mails depuis 5 ans. Voilà, que ta journée ne soit pas parfaite, mais que tu puisses trouver un peu de beauté dans ta journée de maman. Donc voilà, il y a tout ce qui est papier, il y a tout ce qui est événementiel aussi. C'est la branche de l'entreprise qui a beaucoup souffert du Covid, forcément, mais qui nous a permis, qui nous a donné le coup de pied aux fesses dont on avait besoin pour beaucoup, beaucoup se professionnaliser du côté de la vidéo. Donc, on avait des bureaux au centre-ville de Bordeaux et on a décidé de déménager à Senon, qui est Bordeaux rive droite, pour avoir beaucoup plus de superficie. Et on a créé un studio, notamment avec l'aide de notre réalisateur qui s'appelle Clément Burali, qui est le geek du matos vidéo, qui a équipé notre studio de manière incroyable. Je saurais pas tout expliquer. Justement, il est meilleur que moi, donc tu vois, je veux même pas savoir. Mais je sais qu'il a réussi à faire en sorte, pendant la crise du Covid, de faire en sorte qu'on soit capable de diffuser des lives hyper qualitatifs, multicaméra, enfin comme à la télé, tu vois. On n'est pas encore au niveau de la télé, mais voilà. Et donc, en fait, puisque nos villageoises ne pouvaient plus se retrouver entre elles et qu'on a dû annuler... j'avais fait le calcul un jour, 14 ou 15 événements, donc pour nous ça a été quand même catastrophique. On a été obligé de créer des nouveaux concepts. Donc on a proposé aux fabuleuses de non pas se retrouver en physique dans des salles de 200-300 personnes parce que c'était pas possible, mais on a diffusé des émissions chez des hôtesses qui disaient ben voilà, moi j'habite à tel endroit, je me mets sur une map. Et s'il y a des fabuleuses autour de chez moi, ben moi je peux accueillir entre 6 et 10 personnes pour venir voir cette émission avec moi et pour vivre la soirée ensemble. Donc on a créé des sortes de ce qu'on a appelé les fêtes des voisines. Et finalement ça a été un cadeau extraordinaire pour la communauté, parce que quand tu vas à un événement de 300 personnes dans la ville la plus proche, ouais, t'es morte de trouille et tu rencontres pas vraiment grand monde.
Ouais, j'en dis que là, t'as vraiment un vrai groupe de soutien, c'est génial.
Carrément,
ouais.
Carrément. Et donc, c'est ce qui nous a permis de nous, de devenir de plus en plus local, en fait, ces 3 dernières années. Voilà, ça, c'est tout, pour toute la partie événementielle. C'est le gros de notre business model. C'est le gros des entrées. Et, encore très, très récemment, j'écrivais un mail du matin justement parce que il y a une de mes lectrices qui m'a dit Je suis quand même mal à l'aise, c'est du marketing, tout ça. Et en fait, tu vois, il y a 5 ans, ça m'aurait fait trembler. Et justement, quand j'ai vendu mon premier produit, qui était une formation en ligne, quelqu'un m'a dit, ah ouais, d'accord, donc en fait, tout ça, tu l'avais fait que pour l'argent. Et à l'époque, ça me faisait trembler parce que je me sentais pas encore droite dans mes bottes sur ce sujet. Et en fait, cette lectrice, je lui ai répondu que je suis hyper fière, en fait, de générer de l'argent et que j'arrêterai pas de le faire et que s'il faut du marketing, en fait, pour proposer des produits, en fait, dans lesquels une équipe de 15 personnes met toute son exigence envers elle-même, toute son exigence envers ses collègues, met des moyens de plus en plus conséquents, et tout son cœur aussi, ben en fait moi ça me va et je suis fière en fait des produits que je vends parce que premièrement je sais qu'ils fonctionnent et ça m'a pris un temps fou hein d'être alignée avec le fait que tu peux pas être entrepreneur si t'es pas persuadée que le produit que tu mets sur le marché apporte de la valeur dans la vie des gens. Et aujourd'hui, j'en suis tellement convaincue et je suis tellement convaincue que, voilà, l'argent, en fait, c'est un outil qui me permet de salarier des gens très très bons pour que le message soit apporté de manière encore plus efficace.
Et puis que tu puisses vivre toi aussi.
Et que je puisse vivre aussi parce que j'ai été bénévole pendant plusieurs années, mais au bout d'un moment, j'aurais arrêté, en fait, hein, si aujourd'hui je pouvais pas être salarié par ma structure, c'est clair.
Ah oui, de toute façon, il y a un moment donné. Et puis après, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que tu vois, moi, quand j'ai créé le podcast, il y avait aucune idée de business model derrière. Enfin, comme quand t'as créé ton blog, il y avait pas. J'avais la conviction profonde qu'un jour j'arriverais à vivre de ce projet, mais comment? mais vraiment, aucune idée quoi. Ouais. Et c'est ça, c'est se dire finalement. Toutes les deux, on offre du contenu. Typiquement, le podcast, c'est voilà. Il va bientôt avoir 3 ans. J'ai jamais fait de pub dessus, donc ça a été un centre de coûts. Mais en fait, je suis tellement heureuse de pouvoir aider des gens juste avec ça ou juste avec les contenus sur les réseaux sociaux. Et après, les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Et j'aime beaucoup cette idée, en effet, d'apprendre à pêcher, parce que voilà. Et puis après, dans les piliers de l'alignement de soi, en tout cas au niveau professionnel, si tu ne vis pas de l'activité pour laquelle tu es faite, en fait, tu auras un déséquilibre. Et on est dans un... Et tu vois, l'autre jour, je discutais avec une magnétiseuse qui disait que même si la magnétiseuse ne te fait pas payer, il y a quand même ce principe d'échange, de dire ok, je te donne quelque chose, je te fais un soin, je te nettoie, enfin bref, mais en échange il doit y avoir quelque chose, de l'argent, de une fleur si c'est un enfant, enfin bref, il y a forcément cette logique d'échange. Oui. et qui est nécessaire, parce que moi je sais que pendant longtemps, tu vois, j'avais pas encore de formation avant ou quoi, et tu dis j'aide les gens et ça me comble de joie, mais il y a un moment tu te dis finalement ton travail il doit être rémunéré quoi.
Complètement. Et pour aller encore plus loin, ton client a besoin de payer pour se donner à fond aussi dans l'aventure qu'il a à vivre. C'est-à-dire que moi la première, qu'est-ce qui va faire que je fais mon sport? Mais c'est parce que je paye mon abonnement à la salle. C'est pour ça que je fais du sport. Parce qu'en fait, je me dis, je vais quand même pas perdre mon argent. Et donc mine de rien, c'est une motivation incroyable. Et c'est pour ça que autant ce qui est gratuit est gratuit, autant tu vois, nous aujourd'hui on a le village, je veux que des gens motivés. Et comment est-ce que je teste la motivation? C'est est-ce que t'es prêt à payer pour ça? Par contre derrière, forcément il va y avoir des mamans qui sont en détresse et qui ont pas les moyens. Et là nous on a toujours été, mais il y a toujours une participation symbolique, tu vois. Donc on a jamais offert. Mais on a toujours joué le jeu de quasiment offrir. Et je trouve hyper important cette participation symbolique. J'aime bien l'idée de la fleur dont tu parles. Juste donner une fleur. Parce que c'est encore une fois une manière de se responsabiliser dans l'aventure qu'on a à vivre. Et de pas juste être en position d'être sauvé par l'autre. Non, c'est chacun qui va faire son travail de se sauver soi-même, en fait.
D'ailleurs, il y a un grand débat, parce que tu vois, moi, j'ai fait toutes les démarches pour être Calliope et faire en sorte que ma formation soit finançable avec le CPF. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais oui, mais bon, du coup, les gens ne payent pas. » Alors, si, enfin, ils payent indirectement, c'est leur CPF qui paye. Mais c'est vrai que du coup, tu as des gens, bon bah tu te dis « Ah bah oui, mais… » Après, je pense que tu as le fait de dire « Ok, je vais dépenser mon solde, mon crédit de CPF pour telle formation. » Donc, ça crée un engagement. Mais c'est vrai que quand tu dois payer, c'est pas la même… Enfin, quand tu sors ta carte bleue, c'est pas la même logique, quoi.
Ouais. Et en fait, l'usage de notre carte bleue en dit long sur nous, en fait. En dit long sur notre ambition. Et tu vois, moi, je suis tellement contente de m'être ruinée en investissant en moi-même. Enfin, quand j'y pense, je veux dire, on n'avait pas d'argent. Et l'argent qu'on n'avait pas, on le mettait dans des thérapies, on le mettait dans des conférences. Je sais pas combien j'ai acheté de bouquins. Je sais pas combien de billets de train j'ai payé pour avoir la chance de rencontrer telle personne à qui j'avais envie de poser une question. Enfin, voilà, investir en soi, c'est pas juste une métaphore. C'est investir de l'argent en soi. Et voilà, je sais que je serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu, j'avais pas pris ce risque-là de manière répétée.
Ah ben c'est sûr. Enfin moi je vois, c'est pareil. Hein, quand je vois, j'avais pris une coach de vie. Je venais d'être au chômage. Enfin bref, il y a eu plein de trucs où tu te dis bah. C'était pas raisonnable, mais finalement, si c'est pour être bien et dans tes basques et être heureux tous les jours du reste de ta vie, ça vaut tellement le coup, quoi. Quelle est la valeur que tu mets sur le fait de te dire que tu prends en main ta vie et tu deviens heureux, en fait. Et quand on dit heureux, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça n'empêche pas qu'il y a des crises, des expériences à traverser et à vivre. Mais en tout cas, ça fait que justement ces expériences, ces crises de la vie, t'es sur un bateau qui est beaucoup plus stable et tu sais que t'es plus sur une coquille de noix, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais. J'aime bien ta métaphore. Ouais.
Merci. Donc,
tu te sens plus aligné et peut-être moins en danger, voilà. Parce que t'es plus sur ta
clairement,
coquille de
noix. Clairement, et puis tu sais qu'il y a un cap, tu sais qu'il y a une tempête, mais tu sais que après la tempête, il y a le soleil.
Exactement.
Et le fait de le savoir et d'en être convaincu, ça change tout.
C'est ça. Et t'as traversé tellement de tempêtes que tu sais même que plus tard tu pourras éprouver de la gratitude pour cette tempête.
Totalement.
Tu sais déjà que là, c'est un moment
désagréable.
Voilà, exactement. C'est peut-être désagréable, mais il y a des belles choses qui s'en suivent.
Ouais, l'expression du cadeau mal emballé, elle vient de Christine Michaud. Et clairement, enfin, moi, je me dis maintenant, tu vois, je vois le burn-out, je vois le cadeau mal emballé derrière, le divorce, bon, c'est encore un peu tôt. Mais il y en a forcément. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à mes enfants, je leur disais, là, ils me disent, mais maman, on voit pas là où il est le positif. Je dis, on le verra un jour.
On le verra.
J'en suis sûre. On le verra. Comment tu écoutes ton intuition?
Oh! Merci pour cette belle question. Comment est-ce que j'écoute mon intuition? Alors déjà, j'ai besoin de créer de l'espace pour ça et de sortir de la course et de la précipitation qui est notre lot à tous aujourd'hui. Et je me rends bien compte que très souvent, mon intuition s'exprime le week-end ou mieux encore pendant mes congés. Depuis 3 ans, j'écoute mon intuition en me forçant à faire une vraie grosse pause estivale. Et à vraiment pas du tout me connecter à mon ordinateur. Et très souvent, au bout de ces quelques semaines, les choses sont très très claires dans ma tête. J'écoute aussi mon intuition beaucoup en écrivant dans mes carnets. Enfin, ça sonne mieux en anglais. Les Américains vont dire faire du journaling. Je sais pas comment le dire aussi bien en français, mais j'essaye. Je le fais pas tous les jours, mais j'essaye d'écrire tous les jours. Et très souvent, ça m'aide à donner forme à des choses qui sont volatiles dans ma tête. Et en écrivant, il m'est arrivé plusieurs fois de mettre en forme une idée et de me dire, tiens, là, il y avait quelque chose à explorer.
Comment tu célèbres tes réussites?
Je suis très extravertie, donc j'ai beaucoup besoin d'en parler. Donc, je saoule mon mari et je peux lui parler pendant 2 heures de à quel point j'ai été géniale sur ce coup-là. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi. Je pense que c'est, voilà, c'est lui qui s'en prend le plus plein la tête de mes réussites. Je crois qu'il aime ça, donc ça va. Il s'en est jamais plein. Je suis aussi très dans... Alors ça, j'ai appris. Hein. Ça, c'est pas naturel pour moi, mais dans le corps. Et j'ai beaucoup appris les dernières années la puissance de mettre la musique à fond et de bouger mes fesses, en fait. Alors, il y a des mots très sérieux pour expliquer ce phénomène. C'est qu'en fait, le coach des coachs, celui qui a inventé le coaching, Tony Robbins, va dire « le mouvement crée l'émotion ». C'est-à-dire que l'émotion crée le mouvement. Quand je suis heureuse, j'ai envie de danser. Quand je suis en colère, hein, ben j'ai les tempes qui cognent et je deviens rouge. Quand je suis triste, ça me fait pleurer. Mais à l'inverse, le mouvement crée l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, je peux me mettre à danser et en fait, ça va me faire ressentir de la joie que je ressentais pas, tu vois. Et tout ça pour dire que ça, c'est un truc qu'on enseigne en long, en large et en travers à nos fabuleuses dans le village. Et que en équipe, c'est quelque chose qu'on vit. Donc, on a des temps de célébration. Dès que la musique est à fond, ça veut dire qu'il faut se lever de son bureau. Et voilà. Et tous les mardis matins, on commence par danser comme des grands malades. Voilà, je remercie mes équipiers de jouer ce jeu avec moi parce que c'est très souvent quand même assez ridicule si les gens nous voyaient. Et on pratique la célébration et la gratitude de manière très très intentionnelle en équipe. Voilà, chaque mardi, tous mes salariés savent qu'ils doivent débarquer au bureau avec une célébration en tête et qu'ils vont devoir l'exprimer devant tout le monde. Voilà, donc pour répondre à ta question, ouais, je pense que je célèbre de manière quand même très extraverti en exprimant beaucoup et en invitant les autres aussi à le faire.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ?
La première fois que j'ai publié un de mes écrits. Et ça a l'air de rien, mais j'étais vraiment persuadée. J'avais très confiance en ma capacité technique à écrire, mais pas du tout dans le fait que j'avais des choses intéressantes à dire. Et oui, j'ai jamais regretté d'avoir eu confiance en moi.
C'est quoi pour toi la réussite ?
Pour moi, la réussite, c'est du temps. Et je pense que je suis en train de commencer à réussir tout doucement. Parce qu'au départ, pour moi, la réussite, c'était toucher un maximum de personnes ou... Et aujourd'hui, en fait, du coup, avec les années, j'ai pu être esclave de ma réussite. C'est-à-dire que, en fait, je me suis souvent retrouvée en compétition avec moi-même. Tu vois, je publie un premier magazine, ben si l'année d'après, j'en vends pas autant, ou je publie un premier livre et si l'année d'après, le deuxième marche pas autant. Et comme j'ai eu quelques jolis petits succès, ben j'ai beaucoup été en compétition avec moi-même pour faire toujours mieux, et ça m'a beaucoup épuisée. Et en fait, aujourd'hui, je me sens en réussite parce que je suis plus esclave de mon entreprise. Et je pense que ça s'est pas fait en un jour et c'est parce que j'ai su recruter. Et je pense aussi parce que j'ai su recruter les bonnes personnes. Ben, tu vois, aujourd'hui, je vais pas te dire que je bosse pas beaucoup, mais j'ai du temps à nouveau pour être avec moi-même, pour être avec mon mari seul. Ce qui est quand même incroyable, pour être avec mes enfants, pour être avec mes amis. Et du coup, je me sens réussite, ouais, d'avoir su, en fait, dégager ce temps-là. et de savoir que je peux oublier ma boîte pendant quelques heures et qu'elle va pas s'effondrer et que le monde continuera de tourner sans moi.
D'ailleurs, les enfants, on n'en a pas parlé, mais donc tu as eu tes jumeaux, mais tu as eu d'autres enfants après.
Ouais. Donc Adela et Roman, qui ont fêté il y a pas longtemps leurs 10 ans, qui sont des super garçons, franchement. J'adore cet âge, en fait. 10 ans, c'est vraiment un âge super sympa. On peut papoter de plein de choses. Ils ont de la conversation, ils sont serviables, ils sont vraiment chouettes.
T'es pas encore dans la pré-ado.
Non, justement, mais je sais, j'en profite encore.
Profite, t'as encore quelques semaines, et quelques mois.
C'est clair.
En fait, il a 11 ans, est en plein dedans, là.
Mais tout le monde me le dit. Tu vois, 10 ans, c'est juste symbolique, mais c'est dans les mois d'après que boum. Donc, je profite. Ils sont pas encore au collège, ils sont tout mignons. Et puis, on a perdu un bébé en 2017. Voilà, une fausse couche. Mais voilà, ce bébé fait partie de la famille puisque quand les enfants font la liste des membres de la famille, ils parlent toujours de ce bébé qu'on a appelé Céleste.
Tu l'as perdu au bout de combien de temps?
C'était une fausse couche, une banale fausse couche du premier trimestre. Hein. C'était un petit peu moins de 3 mois. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, ça arrivait à tellement de femmes et qu'on en parlait si peu. Moi, j'ai cru me noyer dans un océan de noirceur. Mais vraiment. Alors que, tu vois, c'était même pas l'envie de pouponner. C'était même pas... c'était juste une petite vie qui comme ça qui s'envole. Et puis de se dire, mince, mon utérus était censé produire la vie. Il a produit la mort. Ça a été une expérience qui m'a beaucoup retournée.
Et vous avez quel âge, les garçons?
Et les garçons avaient, c'était fin 2017, ils avaient 5 ans et demi, 6 ans. Et ils ont eu besoin d'en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la première fois qu'ils ont été confrontés au deuil. Alors, d'une manière, si je puis dire, douce, au sens où ça aurait pu être bien pire. Et j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui ont vécu... voilà, le deuil périnatal de manière encore plus trash, en fait. Mais voilà, c'est une petite vie qui nous aura beaucoup marqué dans la famille. Et ensuite, Cassandre, qui a 3 ans, et Victoire, qui a 2 ans. Donc, presque des jumelles. Elles ont 16 mois d'écart. Et elles ont, du coup, un grand écart avec leur grand frère. C'est une dynamique assez intéressante. Parfois, les gens me disent, mais t'as 4 enfants, mais comment tu fais? Sauf qu'en fait, j'en ai pas 4 de moins de 6 ans, tu vois. J'ai 2 gars de 10 ans qui, pour l'instant, en tout cas, sont quand même hyper sympas. Et alors, bien sûr, je veux pas leur mettre la pression d'être les animateurs de leur petite sœur, mais quand même, ils font un peu office de télé pour elles, tu vois. Juste le fait de les regarder, ça les
occupe. Ça les fascine,
Ils les font jouer et tout. Ils sont vraiment sympas. Et voilà, et ces deux petites filles, nous, on avait un plan, en fait, avec David de 4 enfants. Après, on en a eu 2 d'un coup, et là, ça nous a quand même beaucoup calmé. Et puis, on a traversé un long désert, de couple où, clairement, je me souviens encore du jour où j'ai posé la question à David en disant, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'un jour on remettra le couvert, quoi? Il dit, ah non, mais moi, je suis épuisée. Et puis, ce qui m'avait fait mal, mais à l'époque, c'est qu'il était même pas épuisé par les jumeaux. Il était épuisé par le fait que moi, je sois épuisée, en fait. C'est que je le tire vers le bas, quoi. Et je le comprends. Et, les années ont passé. On s'est affranchi quand même de beaucoup de choses. On a pris soin de notre couple. Et en fait, je pense qu'il y avait un truc un peu malsain, quand même, de mon côté. D'avoir envie de refaire des enfants pour voir si j'étais capable de le vivre autrement et de pas retomber dans le burn-out. Donc, un truc quand même pas forcément très, très net, un petit côté challenge. Mais voilà, en tout cas, ces deux petites filles sont arrivées et... quelque part, je dois dire quand même que c'est assez guérissant pour moi de revivre une petite enfance. D'avoir revécu la grossesse, d'avoir revécu l'accouchement. Je dois dire aussi de pas l'avoir vécu avec des jumeaux, parce que quand même si elles sont rapprochées, ça n'a rien à voir avec les jumeaux. Il y a ce côté très militaire. voilà, j'avais pas entre guillemets profité en fait des premiers mois. Et là, voilà, j'avais beaucoup plus de réflexes aussi de survie. J'ai su demander de l'aide, j'ai su m'entourer, j'ai su prendre soin de moi, j'ai su dire stop, j'ai su les faire garder quand il fallait. Et donc c'est assez guérissant. Bon, Cassandre est entrée à l'école en septembre, puis Victoire entrera à l'école l'année prochaine. Donc je pense qu'il y aura aussi une belle étape qui sera passée. Mais c'est vrai que c'est beau de le revivre, non pas de manière parfaite, mais de manière quand même beaucoup plus détendue, en étant, comme on le disait tout à l'heure, une autre personne, quoi. Je suis quand même une autre maman pour elle que j'ai été pour mes garçons. Donc, ça me fait un peu culpabiliser, en vrai, par rapport à mes garçons, en me disant, mince, ils n'ont pas reçu ce que leurs petites sœurs reçoivent, en termes, je pense, de sécurité émotionnelle. Et en même temps, je pense que ces gars, ils ont les ressources en eux pour être qui ils sont et puis pour se construire avec leur histoire. Et leur histoire, c'est d'avoir une maman qui a pété un câble à un moment donné. Voilà, en même temps, moi, je serais pas qui je suis si j'avais pas vécu ça. Et j'espère en tout cas qu'ils sauront quoi faire de cet historique-là. Avec mon mari, on dit en rigolant, mais en fait, je pense qu'on devrait vraiment le faire. Mais on se dit qu'on devrait mettre de côté de l'argent pour les soutenir quand ils se payeront leur première thérapie, tu vois, par rapport à tout ce qu'on aura mal fait. Voilà. Donc, c'était une longue réponse à ta question pour te parler de mes 4 enfants plus un au ciel.
et du coup, quand tu as eu les filles, tu t'es arrêtée ? Enfin, tu t'es arrêtée, t'as pris un congé parental ?
Non. Non, en fait, alors...
Même un congé maternité, alors, parce que du coup...
En tant que chef d'entreprise, ça a été quand même très, très compliqué. Donc, j'ai pris minimum vital, genre 6 semaines. Et en fait, par contre, ce que j'ai fait, chose que je n'aurais jamais pu faire dans ma vie d'avant, c'est que, justement, quand je te disais le succès, c'est le temps et c'est la liberté de pouvoir organiser un peu ma vie comme je veux aujourd'hui. Et justement, on venait de déménager dans ces super grands locaux dans la banlieue bordelaise. Et bien, en fait, j'ai tout organisé pour pouvoir les emmener avec moi. Donc, j'avais créé une salle de sieste. Elles avaient leur petit tapis par terre, leurs petits jouets. Je pouvais allaiter à tout moment. Voilà, donc j'étais clairement pas au top de ma productivité, faut pas se mentir, mais j'étais présente en réunion, j'étais là pour prendre les décisions importantes, et puis à côté de ça, voilà, j'avais une équipe qui était quand même hyper aidante pour me permettre d'être là sans vraiment l'être. Et j'ai adoré en fait, parce que alors, j'étais très fatiguée, les nuits n'étaient pas du tout parfaites et tout ça, mais j'avais appris de ma première expérience avec les jumeaux que j'avais besoin de garder un pied au travail, et je l'ai fait, et ça s'est super bien passé.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Hélène de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
Tu poses des bonnes questions, toi, Charlotte. Je pense qu'elle dirait... Alors, ça fait hyper peut-être prétentieux de dire ça, mais je vais te dire la première pensée qui m'est venue. Je pense qu'elle dirait « t'es belle ». Voilà, je pense qu'elle... Parce que les petites filles de 6 ans, elles trouvent d'ailleurs toujours toutes les mamans ou toutes les dames belles. Mais je pense qu'elle serait sensible à une certaine beauté qui vient d'une sécurité intérieure que j'ai gagnée.
Que t'as enlevé un masque qui laisse passer la lumière.
Ouais, ouais.
On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi, du coup, tes renoncements en tant que femme entrepreneuse et maman de 4 enfants ?
J'ai renoncé à la perfection. Et ça a été très, très dur. Et je dois d'ailleurs renoncer à la perfection tous les jours de ma vie. Voilà, j'ai renoncé à avoir une maison rangée, j'ai renoncé à avoir une maison propre, j'ai renoncé à être tous les jours à la sortie de l'école, j'ai renoncé à avoir un business qui aurait pu, j'en suis persuadée, se développer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et toucher encore beaucoup plus de gens aujourd'hui. J'ai renoncé... J'ai renoncé à pouvoir rentrer chez moi le soir sans avoir à penser plus à rien, parce que je suis responsable en fait de moi-même, d'une famille et de beaucoup de gens en fait dont je paye le salaire. Donc je pense que j'ai quand même renoncé à une à une forme de légèreté et d'insouciance.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans ta vie ?
Notre crise de couple. Notre crise.
Et du coup, comment tu l'as traitée, enfin, gérée ?
Ça a été le plus difficile. Ça a été arrêter d'essayer de le changer et accepter qu'il fallait que ça commence par moi. Et ça, c'est très difficile. C'est à ce moment où t'es persuadé que l'autre a 95% de tort et que tu te dis, ok, mais même si moi je n'avais que 5%, si je m'attaquais déjà à ces 5% là. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup plus que 5% de tort. Et je pense que ouais, ma plus grande difficulté a été de je me répète parce qu'on en a déjà parlé, mais de ne pas voir mon mari comme mon sauveur. Et de devenir responsable de moi-même, de mon propre bonheur.
Ouais. C'est quoi tes plus grandes peurs encore aujourd'hui ?
J'ai peur de perdre mon alignement intérieur. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt rassurant que j'en ai peur, parce que si j'étais pas consciente que ça se perd vite. Mais voilà, j'ai peur de produire des choses qui sont pas moi. Et en même temps, en fait, comme je suis à la tête d'une boîte et qu'il faut que ça avance, ben, je suis aussi obligée d'accepter que tout n'est pas forcément 100% moi. Donc, c'est pas évident. Mais voilà, ça, j'en ai peur. J'ai peur, en fait, de, sans m'en rendre compte, glisser dans une mécanique bien huilée dans laquelle je mets plus mon âme. Et je me rends compte que ça peut arriver très, très vite. Et puis, j'ai peur je vais te dire un grand classique, hein, mais si je devais vraiment te dire de quoi j'ai peur, c'est j'ai peur de perdre mon mari et mes enfants.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui ?
Je suis fière de porter beaucoup de casquettes en même temps. Et de prouver, non pas par des grands discours de type féministe victimisant, mais plutôt par des actes, de prouver à mes filles et à mes garçons que c'est possible.
Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de répondre ?
Je ferai ce même rire. Moi, ha 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 ha. J'aurais envie de lui dire ben vas-y, fais la même chose que moi et tu me diras si c'est de la chance ou pas. J'aurais envie ouais, non, en fait je pense que ça vaudrait même pas la peine de se justifier à cette personne, parce que si elle le dit, ça, je pense que ça en dira quand même long sur le fait que c'est quelqu'un qui est pas forcément dans... C'est Brené Brown qui dit, est-ce que tu es dans l'arène avec moi ? Et sinon, ton avis ne m'intéresse pas. Donc, je pense que ma réponse devrait être un rire et après, ton avis ne m'intéresse pas. C'est hyper intéressant ce qu'explique Brené Brown dans Le pouvoir de la vulnérabilité. Elle dit, mais comment faire pour à la fois ne pas écouter les feedbacks de tout le monde, parce qu'en fait, sinon, on fera plus jamais rien, on sera paralysé, mais être capable d'écouter quand même du feedback, parce que sinon... Justement, on peut perdre notre alignement et commencer à faire n'importe quoi. Et elle dit, ben, pour moi, le meilleur moyen de trier les personnes dont je veux recevoir le feedback ou pas, c'est est-ce que t'es dans l'arène avec moi? Est-ce que t'es quelqu'un qui mord la poussière? Est-ce que t'as déjà pris tes tripes et tu les as déjà mis sur la table? Est-ce que t'es vulnérable avec ta vie? Et donc, une personne qui me dit c'est que de la chance, par définition, c'est quelqu'un qui est pas dans l'arène. Et du coup, son avis ne m'intéresse pas.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ça tient en quatre mots. Va voir un psy.
Et le conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
Apprends à t'aimer. C'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ceux que tu aimes le plus au monde.
C'est quoi tes prochains défis?
Mes prochains défis, se résument tous en continuer de bâtir mon phare pour les mamans qui sont dans la tempête, de sorte à être vues d'un petit peu plus loin, et notamment par une nouvelle génération de mamans dont je parle pas forcément le langage. Et donc mon prochain défi, c'est, tu vois, pour être très claire, je viens de me lancer sur TikTok. J'aurais jamais pensé te dire ça, mais en fait, justement, dans mon équipe, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi en TikTok. Et en fait, justement, il fait partie d'une génération, enfin, tu vois, qui a 10-12 ans de moins que moi. Et en fait, je suis rentrée, voilà, dans ce monde des mamans, des toutes jeunes mamans de 25 ans. En fait, je reviens pas du nombre d'entre elles qui se noient. C'est hallucinant. Et en plus, elles ont pas les filtres que nous on avait ou que nous on a. Donc, elles ont aucune honte, en fait. Et donc, elles vont parler de leurs émotions d'une manière, enfin voilà, complètement sans filtre. Et donc mon prochain défi, c'est de trouver comment adapter mon discours à cette génération. Et ce sera pas forcément moi, parce que je suis peut-être trop vieille, mais en tout cas de trouver les bonnes personnes pour le faire.
Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est que donc tu disais que tu étais alsacienne, mais que tu vis à Bordeaux.
Oui.
À quel moment vous avez décidé de quitter l'Alsace?
Alors, on a quitté l'Alsace en 2016 et c'était un choix pas du tout rationnel. Nous, ce qu'on savait, c'est qu'on avait besoin de partir. On avait besoin, en fait, de géographiquement matérialiser une distance qu'on avait déjà prise à l'intérieur par rapport à beaucoup de choses, en fait, de systèmes qui nous coupaient les ailes. Même si j'adore cette région et que j'adore les gens qui y sont. On a senti, voilà, qu'on avait besoin de matérialiser cette distance et on savait pas où aller. David avait pas mal de propositions de job. Enfin, on aurait pu faire pas mal de trucs. Et voilà, on a fait un choix du cœur. On était invités tous les deux pour donner chacun une conférence à Bordeaux. On a pris l'avion, on a passé un week-end là. Et en remontant dans l'avion retour, on s'est regardé, on a dit, allez, c'est là. Voilà, c'était une intuition. Et c'est assez surprenant de regarder comme dans nos deux entreprises, ça correspond à un boom exponentiel, ce déracinement pour s'enraciner quelque part. Ou je sais pas si c'est le phénomène, tu vois, que nul n'est prophète en son pays. Il y a peut-être un petit peu de ça. Et du fait que, voilà, ici, il y a... Bah, personne ne nous connaissait quand on est arrivé. Donc peut-être les gens nous connaissaient suffisamment peu pour ne pas nous enfermer dans des boîtes, peut-être.
Génial. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous, à part évidemment tous tes livres dont je mettrai le lien sur le site?
C'est sympa, merci beaucoup. Eh bien, Ça part dans tous les sens là dans ma tête, mais je vais quand même m'arrêter sur Brené Brown, qui a écrit beaucoup de livres, mais la porte d'entrée, c'est quand même Le pouvoir de la vulnérabilité, voilà, qui est un livre qui m'a transformée, parce que moi je croyais en le pouvoir de la perfection. Je pensais que c'était comme ça que les gens allaient m'aimer. Et en fait, c'est tout l'inverse. Est-ce qu'on les aime plus, les gens parfaits? C'est tout le contraire, on les déteste. ceux qu'on aime, c'est les gens qui sont pas lisses, les gens qui nous apprennent que, voilà, toute la valeur de la vie, c'est justement la petite tache, tu sais, sur le chemisier blanc quand tu vas à un mariage. Et toi, tu passes ton temps avec ta salive, tu sais, à essayer de l'effacer. En fait, ce que tu fais, c'est que tu l'étends encore plus et qu'elle se voit encore plus. Et en fait, la petite tache sur le chemisier blanc, c'est ça qui nous rend aimable, inspirant. Voilà, donc Brené Brown, le pouvoir de la vulnérabilité. Dans le vrai, exactement.
Ouais. C'est vrai que la vulnérabilité, on en parle, c'est vraiment un sujet qui revient souvent parce que c'est en fait dire, regardez, moi je suis vulnérable et ça laisse aussi à l'autre le droit de l'être. Ouais. D'ailleurs, tu vois, dans la discussion, ce que je disais tout à l'heure, j'avais discuté avec ma psy, avec une copine qui est pédopsie sur justement comment accompagner les enfants dans l'annonce du divorce et tout. Et elle m'avait dit, il y en a une qui m'avait dit, je crois que même tous me l'avaient dit, en me disant, Charlotte, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Et puis ça va leur montrer aussi qu'ils ont le droit de pleurer. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est hyper vrai. Et bon, là, il y a aucune métaphore, mais finalement, c'est une métaphore qui a plein de fois dans la vie. Et clairement, le fait, c'est ce que tu fais aujourd'hui, et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est vrai, on est dans, voilà, on explique la vraie vie, et ça permet aux gens de se dire, c'est normal que je sois comme ça, en fait. Ouais. Ça déculpabilise, ça.
Et nos enfants ont besoin de le savoir, que eux non plus n'ont pas besoin d'être parfaits. Et le perfectionnisme, en fait, c'est un petit peu comme le tabagisme passif. Tu te dis non, mais il y a que moi qui inhale les fumées, alors que non, tous ceux qui sont dans la pièce inhalent les fumées. Donc, forcément, on va jamais dire à nos enfants, tu n'as pas le droit de pleurer, tu dois être fort, et si tu me ramènes pas des 20 sur 20, je t'aime plus. Jamais on va leur dire ça. Par contre, en nous traitant nous-mêmes durement et avec une exigence intenable, on leur passe le message subliminal que eux aussi doivent être parfaits pour être aimés. Donc c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir, de leur montrer en acte que l'imperfection n'empêche pas l'amour.
À qui as-tu envie de dire merci, pourquoi, avant qu'on se quitte?
À mon homme, à mon mari, à mon René. À René. Parce que finalement, ouais, c'est lui qui a construit, tu vois, ma salle de spectacle à Las Vegas, quoi. c'est lui qui a cru en moi. C'est lui qui croit toujours en moi, beaucoup plus que moi-même. C'est lui qui me donne des coups de pied au cul quand j'ai envie d'arrêter. Et c'est lui aussi qui est resté avec moi, alors que parfois, je pense que ça donnait plus trop envie. Et ouais, j'ai envie de lui dire merci pour ça.
Et je pense que toutes les fabuleuses et toutes les futures fabuleuses peuvent le remercier aussi.
Ouais, je pense. Il va recevoir plein de lettres d'amour, ça va être cool.
Un grand, grand merci.
Merci à toi, Charlotte.
Pour les personnes qui veulent te suivre, du coup, moi, je mettrai les liens sur le blog, mais est-ce que tu peux nous donner en deux mots où est-ce qu'on peut suivre toutes tes aventures?
On peut tout retrouver au même endroit, fabuleuseaufoyer.com, pour découvrir qui on est, ce qu'on fait, et puis notamment pour s'inscrire à ce mail du matin que j'envoie à toi, maman épuisée, maman sur les nerfs, ou tout simplement maman qui perd un petit peu son chemin tous les matins à 6h, bon, t'es pas obligé de le lire à 6h du matin, mais je t'envoie une petite piqûre de rappel pour que tu puisses juste prendre 3 minutes pour toi toute seule. Donc ça, tu retrouveras aussi sur notre site fabuleuseaufoyer.com.
Merci beaucoup,
Merci
Hélène.
Merci à toi, Charlotte. J'ai été ravie aussi d'apprendre à te connaître via cette conversation.
Merci.
Au revoir.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine !